Les informations au bulletin de 17h avec Félix-Antoine Parent. Et Félix, on revient sur cette disparition de Tyrone Aaron Coyle. Des recherches infructueuses jusqu'à présent.
La Sûreté du Québec poursuit son enquête dans le dossier de la disparition de Tyrone Aaron Coyle de Maniwaki. Les recherches menées mercredi dernier par les policiers n'ont pas permis de faire progresser le dossier. Le porte-parole à la Sûreté du Québec, Marc Tessier, revient sur l'opération de la semaine dernière.
On a des patrouilleurs qui ont sillonné la rivière. On avait des gens en VTT ainsi que des marcheurs là, pour faire certaines vérifications dans des boisés près où la résidence où il demeurait la dernière fois qu'il avait été vu. Malheureusement, on n'a pas eu d'indice où il n'a pas été localisé.
La Sûreté du Québec demande toujours au public de garder l'œil ouvert afin de retrouver l'homme de 42 ans.
Vérifier leur dépendance, leur terrain, leur cours d'eau. C'est toujours en vigueur, donc on demande aux gens d'être vigilants. Même les promeneurs vont faire des randonnées ou chez ce dans le secteur de... bien vouloir garder l'œil ouvert. Tout indice, morceau de vêtement qui appartient pas à personne, un campement de fortune qui aurait été fait, tout indice, peu importe que ce soit banal ou pas, de nous appeler. On va faire, nous, les vérifications nécessaires par la suite.
Tyrone Aaron Coyle a été vu pour la dernière fois le 9 juin sur la rue Notre-Dame à Maniwaki. Il mesure 5 pieds 7 pouces, pèse 165 livres, a les cheveux courts et bruns et a les yeux bleus. Toute personne qui apercevrait M. Aaron Coyle est priée de communiquer avec le 911.
Des discussions ont lieu avec Lac Barrière afin d'avoir accès à la ressource forestière.
Les compagnies forestières de la région éprouvent certaines difficultés d'approvisionnement. Cette problématique avait d'ailleurs contraint la mise en arrêt temporaire de l'usine de produits forestiers résolue à Maniwaki en avril. Plusieurs acteurs de l'industrie s'accordent pour dire qu'il y a plusieurs raisons en cause pour expliquer cette situation. L'une d'entre elles est la décision de Lac Barrière d'empêcher l'exploitation de la ressource sur son territoire. Le chef du conseil de bande de Lac Barrière, Casey Ratt, explique que cette décision a été prise à des fins de conservation de l'environnement.
Nous avons décidé qu'il ne devrait plus avoir d'exploitation forestière sur notre territoire puisque depuis les années 80, cela a complètement transformé l'habitat des membres de notre communauté à un tel point qu'on peine à reconnaître la forêt aujourd'hui. Présentement, nous sommes en attente d'une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Le chef de Lac Barrière précise que des discussions sont en cours afin d'arriver à une solution convenable pour tous. Ce dernier mentionne que c'est également une occasion pour l'industrie forestière de faire évoluer son modèle économique.
Il est également nécessaire d'arriver à un accord sur une méthode durable d'exploitation forestière qui serait à l'avantage des entreprises. Je crois qu'il est venu le temps de trouver un modèle qui serait moins dommageable pour la biodiversité qui peuple nos forêts.
La communauté de Lac Barrière communique étroitement dans ce dossier avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec.
La Maison Amitié de la Haute-Gatineau présente le projet Par ici pour contrer l'itinérance.
Le nouveau projet de Par ici de la Maison Amitié de la Haute-Gatineau proposera 15 unités de logement, dont 5 appartements pour les familles, ainsi qu'un accompagnement pour les personnes et familles en situation d'itinérance ou à risque de l'être. C'est en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et d'autres partenaires que le projet voit le jour. Esther Dibault, chargée de projet itinérance pour la Maison Amitié de la Haute-Gatineau, explique de quoi il en retourne.
Le projet Par ici, c'est un projet de service de logement et d'accompagnement pour soutenir les personnes et familles, bien sûr, qui ont besoin d'une ressource d'hébergement, qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.
Deux types d'hébergement sont offerts, soit l'hébergement d'urgence et l'hébergement de stabilisation. À ce propos, Esther Thibault.
Le premier volet, c'est l'hébergement d'urgence. Donc, ce sera d'avoir au moins 5 unités d'hébergement sécuritaire et stable. Pour le volet urgence, donc c'est vraiment à court terme, permettre aux personnes qui ont besoin de lits de dépannage d'en avoir accès. Et le volet d'hébergement de stabilisation, là, c'est encore un peu plus d'unités qui seront disponibles, donc 10 unités.
Ces derniers logements offriront une possibilité de séjour prolongé jusqu'à 6 mois, avec pour but la réinsertion sociale à la fin de cette période. Voilà le portrait du projet tel qu'il devrait être à sa finalité. Esther Dibault explique où il en est à l'heure actuelle.
Nous sommes là dans la recherche continuelle de financement, de dons, et aussi dans la recherche d'endroits où est-ce que nous allons établir ce projet-là. Donc, nous sommes vraiment dans la partie conception du projet, dans la partie établissement de tous nos objectifs.
L'équipe a comme objectif de lancer ce nouveau service en avril 2025. Pour ce faire, il faut que les démarches de financement portent fruit et que les logements nécessaires, bien, soient disponibles.
Merci beaucoup de ces précisions. Et là, on va se donner des précisions sur la météo. Ça deviendra peut-être des nouvelles demain. On souhaite que non, parce qu'on est sous une veille météo d'orage violent encore une fois.
Encore une fois, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est rendu monnaie courante,
ouais,
on dirait.
C'est rendu comme la norme.
C'est
merci
ça.
Beaucoup, Félix Antoine. On se retrouve demain, nous.
C'est un plaisir. Bye-bye. Bonne soirée.
Bonne soirée.